Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Alors, maître Laurent Moreuil du barreau de Paris, vous étiez dans ce dossier avocat de la partie civile, et en l'occurrence avocat des sœurs de Gisèle Künzler. Je voudrais que vous me racontiez cet homme que vous avez eu face à vous pendant ce procès. Je ne le connais pas, vous l'avez vu. Comment se tient-il? Comment se comporte-t-il? Quelle impression fait-il?
Alors, je ne le connaissais pas non plus, jusqu'à entendre la reconstitution qui a eu lieu pendant l'instruction, où j'ai eu l'occasion de le croiser pour la première fois. Donc, il s'est prêté à cet exercice avec beaucoup de calme et de sang-froid. Et puis ensuite, j'ai donc vu cet homme à l'audience, un grand gaillard, très en forme, très silencieux pendant une grande partie de l'audience, et absolument glaçant.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, effectivement, ce qui semble se déduire de sa personnalité, même si dans ce dossier, il n'y a pas d'expertise médico-psychiatrique, ni même médico-psychologique, ce qui, bien sûr, dans un dossier criminel, laisse des zones d'ombre assez prononcées, mais pour autant, il est dénué complètement d'empathie. Une partie de ses répliques à l'audience, le peu qu'il en a dit, est absolument effroyable. Et tout est dit avec une espèce de rigueur et de certitude vraiment affolante dans le contexte de ces trois meurtres particulièrement violents.
Son obsession, son unique préoccupation, d'après ce que j'ai compris, c'est de parler des soi-disant humiliations qu'il a subies. Tout le reste ne l'intéresse pas.
Oui, il est complètement ignifugié contre la souffrance des proches de la partie civile. Il y a dans la salle le mari de Michel Fabrice, la réceptionniste. Il y a ses parents, il y a ma cliente, la sœur de Madame Künzler. Et en fait, ces gens n'existent pas. Les seules interventions qu'il fait sont des interventions strictement techniques sur des questions du président. Avec des sorties vraiment effroyables, et je pèse mes mots.
C'est-à-dire totalement décalé de l'émotion qu'on devrait ressentir en évoquant les faits.
Voilà, je crois que des nombreuses expertises dont j'ai pu connaître quand je faisais du droit pénal, effectivement, il est psychopathe, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'empathie, et il n'interagit pas avec les gens, et il est sur un registre très droit du travail. Hein. D'ailleurs, le dossier le montre. Sortie définitive des effectifs, en rayant dans le livre entrée sortie du personnel le nom de ses victimes, et notamment de cette jeune femme, c'est juste du jamais vu.
Quand il dit « je n'ai aucun regret », alors moi j'en ai raconté hein, des histoires criminelles, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que à aucun moment il pense qu'il n'a fait fausse route.
Ah non, non, il est complètement droit dans ses bottes, droit dans sa position, et inaccessible à toute éventuelle considération, encore une fois, de ce que les autres ont pu vivre ou penser. Il est sur sa ligne, j'ai été humilié, on ne me reconnaissait pas la qualification qui aurait dû être la mienne, vous rappeliez qu'il parlait plusieurs langues, etc., puis il revendiquait donc d'être non pas veilleur de nuit, mais night auditor, il parlait anglais. Il y a cette histoire donc du livre entrée-sortie personnelle, les mots qu'il est sur les cadavres, et il est tout à fait cohérent sur la ligne. Il prend d'ailleurs dans la caisse son salaire,
oui.
Pas plus, hein. Il prend son salaire.
Ce qu'on lui doit. Son solde de tout compte.
Absolument. Mmh. Et là, le mot est très bien trouvé, solde de tout compte.
Ouais. Donc, psychopathe, on est d'accord, ça saute aux yeux, avec une composante narcissique très forte, parce qu'au fond, il n'y a que lui, ses souffrances, ses frustrations qui comptent.
C'est ça, ce qu'on sait de lui, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'expertise, mais on en sait un peu, on sait son passé pénal. Ça a été rappelé, un incident dans le métro... où il avait pris d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, la défense de quelqu'un. Hein, c'était pas une agression, c'était la défense de quelqu'un. Il avait sorti un pistolet d'alarme et donc effectivement énucléé, je crois qu'on dit comme ça, donc un travesti. Et puis avant ça, quand même, la tentative d'assassinat de sa femme et son viol, qui lui avait valu une condamnation criminelle, qui fait écho aussi à l'histoire de son père, ce Landru, là, qui lui-même avait probablement... disait le dossier, probablement essayer... tuer sa femme.
Tuer sa femme,
oui.
Parlons de son père. On est tombé d'accord tous les deux, et je suppose que tous les protagonistes du procès étaient d'accord là-dessus, pour dire que c'était un psychopathe, c'est-à-dire au sens le plus littéral des choses, quelqu'un qui n'avait pas d'empathie pour ses victimes, qui ne ressentait nullement leur souffrance, et qui au fond ne voyait dans le meurtre qu'un moyen d'assouvir ses propres frustrations personnel, avec une composante narcissique probablement extrêmement développée. Mais un psychopathe, ça se fabrique. Et on a là un type dont on comprend assez vite qu'il s'est fabriqué dans l'enfance, dans ce père qui tue sa mère, dans l'absence de sa mère, puis dans l'absence de ce père qui meurt d'un accident de voiture, puis dans l'absence d'amour qu'il reçoit dans les familles d'accueil, parce que comme c'est l'usage à la DAS, on le change régulièrement de famille d'accueil, et sans doute ne s'y comporte-t-il pas très bien, l'obligation d'arrêter d'école qui l'empêche de faire des études. Bref, on a fabriqué ce monstre.
Oui, alors effectivement, quand on met tout ça en regard, et la plupart des procès sont criminels, sont, comme vous le savez, consacrés pour partie à la personnalité de l'accusé,
oui.
Qui doit être prise en compte par la cour d'assises pour prendre une décision sur ce qu'il convient de faire. Mais avec une personnalité de ce genre, c'est assez compliqué. En fait, oui, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il a un roman familial, une trajectoire sociale qui sont... donc de celles dont on s'emparerait volontiers en défense.
Oui.
Un père meurtrier, les familles d'accueil, la DAS, et puis une ascension sociale quand même assez remarquable. Il finit par avoir un job plutôt pas mal payé, 12 000 francs à l'époque, il parle plusieurs langues.
Parce qu'il les parle vraiment.
Oui.
Il parle vraiment hébreu, japonais, espagnol, anglais, polonais.
Je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de tester ses talents linguistiques, mais c'est ce que disait le dossier, je crois, et en tout cas anglais c'est certain, espagnol est probablement un peu d'autres langues. Voilà, c'est un type très bien, très, très érudit, hein, le dossier le dit aussi, très éduqué. Mais le problème, c'est que pour prendre en compte ou considérer ce type de trajectoire et d'histoire dans le cadre d'un dossier criminel d'une telle gravité, encore faut-il que l'accusé interagisse avec ceux qui essayent de comprendre ce qui lui est arrivé.
Et lui, il s'en fiche de tout ça.
Je ne sais pas s'il s'en fiche,
il est dans une posture. En tout cas, il ne veut pas en parler.
Et j'aurais... D'ailleurs, trouvé très intéressant de savoir ce que les médecins en pensaient, parce qu'il y avait cette espèce de barrière qui est dure à comprendre, en fait, même quand on a une certaine expérience de ce type de dossier, une barrière psychologique qui faisait que, de toute façon, il refusait complètement qu'on rentre dans sa sphère à lui,
oui.
Et il était sur sa ligne, droit dans ses bottes, hein, comme le veut l'expression, et complètement intangible et imbougeable.
Vous vous souvenez de son avocate ? C'est une femme, hein, je crois qu'il le défendait. C'est terrible de se retrouver à défendre un type comme ça, qui n'utilise aucun des arguments utilisables pour sa défense, qui refuse une expertise psychiatrique qui pourrait le servir. Enfin, c'est une sorte de mission impossible.
Oui, alors, bon, dans ce dossier-là, en tout cas, je ne peux pas parler pour la défense.
Oui.
Mais je me souviens qu'il était défendu, en fait, par le bâtonnier du barreau local et qui était accompagné effectivement d'un collaborateur et d'une collaboratrice. Le dossier méritait bien qu'on soit plusieurs à essayer de s'en occuper. Et en fait, donc il s'appelait Maître Bouly, le confrère qui défendait M. Hennequin. Il l'a défendu avec beaucoup de courage et il a fait comme il a pu avec ce qu'il avait.
Mais c'est mission impossible.
C'était une mission extrêmement difficile. Voilà, en essayant de, effectivement, de reconstituer... l'histoire de cet homme qui, à n'en pas douter, en tout cas pour partie, explique
ce qu'il est devenu.
Même si ça ne justifie pas, ce qu'il est devenu et ce qu'il a fait.
Alors les faits eux-mêmes, parce que j'imagine que la cour d'assises s'est beaucoup concentrée là-dessus, lui dit « mes patrons étaient des salauds, la réceptionniste était la chouchou de la patronne, ils ont eu que ce qu'ils méritaient, mais vivait-il véritablement un harcèlement professionnel de la part de M. Roupios, de Mme Künzler et de Mme Fabrice ?»
C'est pas ce que montre le dossier. Il y a eu des témoins qui ont été entendus, effectivement, qui laissaient entendre qu'il avait des prises de bec assez fréquentes avec Gisèle Künzler. Gisèle Künzler, c'était la compagne de Léo Roupios, qui était le propriétaire de cet hôtel, depuis 45 ans. Et donc, elle était là, elle était au contact de cet homme, qui était, on peut le dire, légèrement psychorigide, très sur ses principes, et donc, dans le travail, ça devait pas être simple. En outre, on voit bien qu'aussi il y a une espèce de revanche sociale très puissante qui est sous-jacente dans le dossier. Ce refus de reconnaître ses qualifications, le fait que ses mérites n'étaient pas admis, Et donc un rapport très tendu.
Donc il n'y a pas de problème du côté de l'hôtel en vérité. C'est-à-dire toutes ces justifications.
Il y a probablement les tensions qui peuvent exister dans le travail avec des personnalités X ou Y. Mais en tout cas, s'agissant a fortiori de M. Roupioz, qui était très peu là, je crois que rien n'existe à part effectivement cette différence entre un employé très très revanchard et les patrons.
La hache. Pourquoi la hache ? La question lui est posée, il s'explique là-dessus.
Eh oui, il s'explique. C'est pour ça que je me souviens bien de ce dossier, je n'ai pas vraiment besoin de notes. Hein. Puisque le président, au bout de plusieurs heures d'audience, peut-être même après la première journée, j'ai oublié le timing, essaye pour la énième fois de lui poser une question, il lui demande « Monsieur Enka, vous aviez une carabine, 22 longs, je crois, pourquoi une hache ?» Et là, sa réponse, je vous laisse l'apprécier, hein, vous qui avez une grande expérience de ces sujets, c'est je connais bien les armes, ça s'enraye facilement les 22 longs rifles.
Bon. Au cas où, donc
Ben, on dirait.
La hache, c'est au cas où.
La hache, c'est au cas où. Alors, d'ailleurs, l'autopsie que j'ai relue ne disait pas ça. Elle disait que les coups mortels, notamment sur Mme Künzler, avaient été donnés par la hache. C'est ce que disait le légiste.
On s'aperçoit que le bonhomme était une bombe en puissance quand on va donc dans son studio, qui est un studio de vieux garçons. Seul, plus personne ne peut prendre de photos de lui parce qu'il n'a pas d'amis, il n'a pas de proches, il est fâché avec tous ses voisins. Il y a une souffrance sociale et psychologique très puissante et une bombe qui est là et qui, sans doute, dort depuis plusieurs années.
Oui, sans doute. Et d'ailleurs, les circonstances dans lesquelles il prend la fuite sont assez symboliques. Il met le feu, en fait. Ouais. Table rase
du passé,
de cette histoire, dans l'exemple de ses patrons et de cette malheureuse jeune femme qui bossait à ses côtés. D'ailleurs, il épargne le groom dans l'exemple, hein, qui a 20 ans, qui est jeune aussi, en expliquant qu'il avait de la sympathie pour lui parce qu'il jouait au keno avec lui. Mmh. Au contraire de cette jeune femme qui était réceptionniste, dont il considérait qu'elle était la complice objective du patronat, puisqu'il l'appelait l'œil de Moscou. Voilà. Mmh. Donc, on voit bien que, mais tout ceci était, effectivement, il y avait tous les ingrédients chez cet homme, effectivement, de l'explosion dont vous parliez, c'est-à-dire ce passé dramatique, cette histoire personnelle très compliquée, et en effet, ça aurait pu se produire sans doute avant. Ça s'était d'ailleurs déjà produit avant, il y avait eu quelques grosses déflagrations déjà. Hein, et donc, ça a été une espèce de finale absolument macabre et escabreuse.
Ce qui est étonnant, parce que s'il était resté pleinement dans sa logique, il se serait porté prisonnier, il serait même resté à l'hôtel, il aurait attendu, assis sur le lit, dans la chambre, qu'on vienne l'arrêter. C'est cette fuite. Pourquoi est-ce qu'il fuit, puisqu'il est prêt à assumer ?
Je ne sais pas.
C'est incohérent, on est d'accord.
En tout cas, oui, on pourrait penser que c'est incohérent et qu'il était là dans une espèce de croisade légitime. Hein.
Ouais.
Bon, mais non.
Il met son nom partout, puisque...
C'est signé très très furax dans l'exemple, mais... Pour autant, il se met en fuite parce que peut-être, je ne sais pas, qu'il est dans cette idée que ce qui s'est produit est légitime, comme il va le dire à de nombreuses reprises à l'audience.
C'est quand même intéressant de voir que 25 ans après, vous qui étiez avocat de la partie civile, c'est-à-dire pas le plus impliqué des avocats par rapport aux défenseurs, vous vous souvenez de cette histoire en détail ?
Ben, c'est difficile de ne pas se souvenir d'une histoire pareille. C'était tellement spectaculaire, tellement violent, et l'audience était encore une fois tellement... inhabituel. Il y avait tout un tas de mécanismes à l'audience qui se produisent en principe, qui sont des mécanismes d'échange, même de contestation. Les affaires criminelles sont quand même, dans un certain nombre de cas, le lieu où on va contester les faits, ou les remettre en question, discuter des témoignages, etc. Oui. Rien de tout ça. Oui. Rien. Rien. Simplement, ce que j'ai fait était justifié par le comportement de ces gens, et c'est comme ça et pas autrement.
Les clientes, vos clientes, et globalement les familles des victimes, comment est-ce qu'elles encaissent tout ça ? Vous êtes obligé de les préparer à ça, de les débriefer, parce que évidemment, vu de leur côté, c'est insupportable. Ce type qui assume tout, qui n'a aucun remords.
Ouais, c'est insupportable, je sais pas s'il y a un mot plus fort qu'insupportable, c'est absolument insupportable.
Donc comment on fait là ? Je veux dire, on prévient les clients en leur disant « je vous préviens, ça va être dur, il fera aucune concession, il va tout assumer, il n'aura pas de regrets ».
Oui, on peut même, dans certains cas, les inviter à ne pas venir à l'audience si on est absolument convaincu qu'il ne s'y passera rien et que la reconnaissance dont on parle beaucoup désormais, de la parole de la victime, l'importance du procès pour la victime, etc., ne sera de toute façon pas considérée. En fait, ce procès a eu l'effet inverse à celui que parfois on peut attendre d'un procès, c'est-à-dire le fait qu'on puisse savoir pourquoi et à qui on a affaire pour pouvoir faire son deuil de ça. Et d'ailleurs, j'avais lu que d'abord le mari de la réceptionniste, qui était cette jeune femme assassinée également, n'avait toujours pas fait son deuil. Et puis l'un des avocats de partie civile aussi en parlait encore avec beaucoup d'émotion. En fait, voilà, ce procès a laissé une espèce de goût finalement d'injustice, en ce sens que, au-delà de la condamnation, le rôle du procès n'a pas été entièrement rempli, probablement.
J'étais ravi de parler avec vous, maître Laurent Moreuil du barreau de Paris, avocat de la partie civile dans cette affaire Hennequin.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.